Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. 2 Timothée, chapitre 3, décrit les conditions qui existeront au temps de la fin. 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 1, nous lisons ceci. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc, des temps difficiles. Et le verset 2 nous dit pourquoi. Verset 2. « Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Prêtre, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est une liste très complète. Et j'ai voulu concentrer aujourd'hui dans ce sermon sur un de ces mots qui caractérise la fin de notre époque, c'est le mot « ingrat ». Des gens qui ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. En revanche, quand il y a la gratitude, cela met de l'huile dans les relations humaines. Et aujourd'hui, dans ce sermon, j'ai voulu vous parler de la gratitude. La gratitude envers Dieu et la gratitude envers notre prochain. Quand nous prenons les choses comme allant de soi, c'est un grand danger. Quand nous prenons les choses comme étant normales, ça ne crée pas ces liens. Et ça nous empêche d'avoir les relations qu'il faudrait avoir, que Dieu veut que nous ayons, avec lui d'une part, et avec notre prochain aussi. L'ingratitude ne crée pas de bonnes relations. Dans l'Ancien Testament, il y avait différents sacrifices. Il y avait le sacrifice de culpabilité, il y avait l'holocauste, sacrifice en don, sacrifice d'expiation et l'offrande des prémices. Si ces sacrifices étaient faits avec un bon esprit, ça pouvait aider les enfants d'Israël dans leur relation avec Dieu, dans leur culte à Dieu. Une panoplie donc de sacrifices qui traitaient différents aspects de leur vie quotidienne. Mais regardons, si vous voulez bien, Lévitique chapitre 7 et le verset 11. Lévitique chapitre 7 et le verset 11, où nous lisons ceci. « Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. » En anglais, c'est traduit, dans la Bible en anglais, c'est traduit par « peace offering », c'est-à-dire une offrande de paix. Le Shoraki traduit ceci par « sacrifice de pacification ». En hébreu, c'est le mot « shelem ». Ce qui est intéressant, c'est que « shelem » et « shalom », mot avec lequel nous sommes plus familiers, ont tous les deux la même racine. « Shalom » et « shelem ». Continuons à lire, si vous voulez bien, dans le verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Il y a donc un lien entre ces deux choses. Entre une offrande de paix et la reconnaissance. Il y a un lien très direct entre les deux que nous voyons par exemple dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Le résultat de ce genre de prière ou il y a les actions de grâce, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous voyons ici ce qui se passe au niveau spirituel. Nous voyons le lien entre ces deux choses. Et en ce qui concerne les êtres humains, le fait d'être reconnaissant, le fait de montrer de la gratitude envers son prochain aide à construire la paix. La Bible nous donne des exemples dans le domaine céleste ainsi que dans le domaine terrestre. Et ces exemples constituent pour nous des modèles. Regardons d'abord dans le domaine céleste, dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 16. Apocalypse chapitre 11 et le verset 16. Le contexte, c'est la septième trompette. Le verset 16 donc, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, verset 17, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Évidemment, c'était un moment charnière dans le plan de Dieu, un moment décisif. Il y a deux choses, entre autres, que nous pouvons remarquer dans cet exemple. Premièrement, dans ce culte qui rend à Dieu, premièrement, ils adorent Dieu, et deuxièmement, ils rendent grâce à Dieu. Et ces deux choses qui sont mentionnées ici sont un modèle pour nous. Sur un plan individuel, personnel, quand Dieu intervient dans notre vie, avec tout ce que Dieu fait pour nous, individuellement, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous protège, quand Dieu répond à nos prières, quand Dieu nous permet de faire face à des situations difficiles, quand Dieu nous guérit, nous aussi, nous devrions rendre grâce à Dieu. Ça devrait faire partie de notre culte, d'exprimer notre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est donc un exemple du domaine céleste. Et nous avons aussi l'exemple du Christ quand il était sur la terre. Il y a une dizaine de références dans les évangiles avant que les gens consommaient de la nourriture. C'est bien sûr l'exemple pour nous, chaque fois que nous mangeons un repas, de demander à Dieu la bénédiction sur ce repas, de remercier Dieu parce que tout vient de lui. Et nous avons l'occasion donc de faire ceci plusieurs fois par jour, en exprimant sincèrement notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il nous a donné, parce que tout vient de Dieu. Le Christ, bien sûr, exprimait sa reconnaissance envers son Père. Jean chapitre 11 et le verset 40. Je saute ici au milieu d'un contexte. Il s'agit de la résurrection physique de Lazare. Et le Christ, dans le verset 40, parle à sa sœur Marthe. Jésus lui dit, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il savait que Lazare allait être ressuscité. Et il dit à son père, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Le Christ exprimait sa gratitude. Il savait que Lazare allait être ressuscité. Le mot utilisé ici en grec, c'est le mot « eucharisteo ». C'est un mot qui est actif. C'est pas uniquement la gratitude, c'est le fait d'exprimer la gratitude. Dieu veut que nous exprimions notre gratitude à son égard, et Dieu veut que nous exprimions notre gratitude à l'égard de notre prochain. Le fait d'être reconnaissant, c'est une façon d'être, une façon de penser, une façon de vivre. Nous retrouvons cet état d'esprit dans le millénium, quand Dieu prend les choses en main. Nous le retrouvons dans Ésaïe chapitre 51 et le verset 3. Ésaïe chapitre 51 et le verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, et Dieu va intervenir, donc il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Résultat de cette intervention de Dieu, la réponse des êtres humains, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elles, les actions de grâce et le chant des cantiques. Un culte à Dieu où il y a des actions de grâce. Ça fait partie de ce culte à Dieu qu'il y aura à cette époque dans le millénium, à Sion. Nous voyons ici le physique, le désert qui devient semblable à un Éden. Et nous voyons aussi, de pair avec ceci, le côté spirituel où il y a un culte à Dieu qui comporte des actions de grâce. Verset 4. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Il y aura une reconnaissance débordante à cette époque-là. Ceux qui ont connu la souffrance, la guerre, le monde de Satan, les atrocités des temps de la fin, et ils vont aussi voir la bonté de Dieu, et ils vont voir la différence. Ils auront la gratitude dans le cœur. Et nous aussi, Dieu nous a délivrés de notre passé. Nous aussi, nous pouvons avoir la gratitude dans le cœur. Je voulais vous parler de Jonas. Normalement, quand nous pensons à Jonas, nous n'associons pas Jonas avec de la reconnaissance. Mais à un moment donné dans sa vie, c'était le cas. Nous connaissons l'histoire de Jonas qui s'est enfui quand Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Par la suite, Dieu a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas, à ce moment-là, a changé. Il a eu un changement d'attitude, un changement de cœur. Et nous voyons dans Jonas, chapitre 2, et le verset 2, que Jonas prie. Jonas, chapitre 2, et le verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, verset 3, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Un changement très net ici. Il reconnaît la main de Dieu. Verset 6, il parle de sa situation désespérée. « Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. » L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, verset 7. Les barres de la mer m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Sa délivrance. Il voyait la main de Dieu et que Dieu l'avait délivré. Verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu l'Éternel, il revient vers Dieu, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Il renouvelle donc son contact avec Dieu dans ton saint temple. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il s'est tourné vers Dieu, et Dieu est intervenu dans sa vie. Il avait à ce moment-là, Jonas, la gratitude dans le cœur. La traduction du rabbinat fait ressortir justement cette gratitude qu'il avait à ce moment-là. Je cite, « Pour moi, c'est en te rendant hautement grâce que je t'offrirai des sacrifices. Pour moi, c'est en te rendant hautement grâce que je t'offrirai des sacrifices. » À la fin du verset 10, je reviens dans le second, Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et Jonas va à Ninive. Il prophétise la destruction de Ninive. Mais, comme c'est marqué dans la Bible, ils revenaient de leur mauvaise voie. Et ceci a engendré une autre attitude de la part de Jonas. Chapitre 4 et le verset 1. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il n'a plus un esprit de gratitude à ce moment-là envers Dieu. Verset 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et il va de soi que si nous sommes irrités, nous ne sommes pas en train de montrer, d'exprimer de la gratitude. Il y a des leçons que nous pouvons apprendre de l'histoire de Jonas. Quand les choses ne vont pas comme nous voulions, comme c'était le cas ici pour Jonas, comme nous espérions, quand les choses dans notre vie deviennent difficiles, il ne faudrait pas que nous oublions d'où nous venons et ce que Dieu a fait dans nos vies, comment Dieu est intervenu. De ne pas oublier le fait que Dieu nous a sortis du monde et de ne pas oublier de garder donc, par voie des conséquences, un esprit de reconnaissance à l'égard de Dieu. Ce n'était pas le cas pour Jonas. Il s'est irrité. Et il n'avait plus cet esprit de gratitude que nous avons vu tout à l'heure dans le chapitre 2. J'ai voulu vous parler d'un autre exemple où les gens ont maintenu un esprit de gratitude. Ils ont traversé des difficultés, mais ils n'ont pas oublié Dieu. Ils ont exprimé leur reconnaissance à son égard. Ceci était à l'époque de Néhémie et sous sa direction. Néhémie chapitre 2 et le verset 16. Néhémie avait inspecté les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine à ce moment-là. Verset 16, Néhémie chapitre 2 verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je le dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rétablissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il y avait par la suite, une fois que cette décision était prise, de reconstruire les murailles, beaucoup d'opposition de la part de Sambala et d'autres personnes. Mais Dieu les a aidés, Dieu les a soutenus, ils ont réussi à traverser ces moments difficiles. Et comme nous lisons dans Néhémie chapitre 6 et le verset 15, Néhémie chapitre 6 et le verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Verset 16. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'était la volonté de Dieu qui comptait. Néhémie et les Juifs étaient en harmonie avec la volonté de Dieu, alors que Jonas ne l'était pas. Dieu avait décidé d'épargner les gens de Ninive suite à leur changement de comportement. Jonas s'est irrité et Jonas n'avaient plus un esprit de gratitude. C'est très important pour nous d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Continuons à lire, si vous voulez bien, Néhémie chapitre 7, le verset 1. Lorsque la muraille fut rebâtie, chapitre 7, verset 1, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les bâtons des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Et nous voyons dans le chapitre 12, le verset 24, et je lis ceci dans le rabbinat, Néhémie chapitre 12 et le verset 24, ces chefs de lévites étaient Hashabia, Sherebia, Yeshua, fils de Kadmiel, qu'assistaient leurs frères dans la récitation des louanges et actions de grâce, suivant le règlement de David, homme de Dieu, section par section. Verset 27, toujours dans le rabbinat, lors de l'inauguration du mur de Jérusalem, on se mit en quête des Lévites dans tous leurs lieux d'habitation pour les amener à Jérusalem, afin de célébrer l'inauguration en une fête joyeuse avec des actions de grâce et des chants, des cymbales, des lyres et des harpes. Toujours chapitre 12 et le verset 44. Chapitre 12, 44, et je reviens cette fois-ci au second. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées pour la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et les purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leur fonction selon l'ordre de David et de Salomon, son fils, car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance et beaucoup de gratitude. Et nous trouvons un état d'esprit similaire à l'époque d'Ézéchias. À l'époque d'Ézéchias, dans 2 Chroniques, chapitre 29, et le verset 31. Quand il rendait un culte à Dieu, 2 Chroniques, chapitre 29, verset 31, je saute au milieu d'un contexte, mais c'est pour montrer cette reconnaissance. Verset 31, Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Quelques chapitres plus loin, 2 Chroniques, chapitre 33, cette fois-ci le verset 16, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 16, il s'agit ici de Manassé. Une fois que Manassé s'est humilié, que Dieu l'a ramené à Jérusalem de sa captivité à Babylone, verset 16 donc, il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrait des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Manassé avait établi une relation avec Dieu. La Bible parle de implorer, de s'humilier et des supplications. Manassé avait un esprit de gratitude envers son Dieu. Pour Jonas, ce qui s'est passé était difficile. Les gens de Ninive étaient l'ennemi de son peuple. Et pourtant, c'est le même Dieu qui a délivré Jonas et qui a aidé les Juifs à l'époque de Néhémie. Et j'ai voulu vous montrer un troisième exemple qui est un exemple de quelqu'un qui a continué à remercier Dieu dans des situations très difficile. Il a continué à faire confiance à Dieu et il est resté très positif. Je voulais vous parler de Paul qui a écrit les épîtres d'Éphésiens et de Colossiens quand il était en prison. les conditions de l'incarcération à l'époque de l'Empire romain étaient autrement plus dures que ce que nous pouvons connaître dans nos sociétés occidentales. Mais malgré les circonstances, malgré les difficultés, Paul est resté très positif. Et nous voyons dans Philippiens chapitre 4, et le verset 11, nous voyons le même Paul qui a écrit ceci. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul n'avait pas les yeux sur lui-même. Il cherchait constamment à aider ses frères dans la foi. Et Paul nous instruit par ses épîtres, parce qu'il avait cette attitude positive et il exprimait sa gratitude. Ephésiens chapitre 1 et le verset 15. Ephésiens chapitre 1 et le verset 15, nous lisons ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. C'était son état d'esprit, c'était sa façon d'être. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Dans Éphésiens, Paul détaille comment un chrétien devrait se comporter. Il donne un certain nombre de précisions. Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 15. Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons donc ici, de nouveau, ces deux grands thèmes qui reviennent quand on prie Dieu. Le fait de louer Dieu, d'une part, et le fait de rendre grâce à Dieu. Et ici, c'est précisé pour toutes choses. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devrions être reconnaissants à l'égard de Dieu. Pour la vie même, pour la beauté de sa création, pour la force qu'il nous donne pour pouvoir faire toutes sortes de choses, le fait qu'il pourvoit à nos besoins, le fait que nous avons, que Dieu nous octroie des bénédictions, nous avons la Bible, et grâce à la Bible, nous pouvons connaître la volonté de Dieu, d'être reconnaissant profondément pour l'amour de Dieu, pour sa miséricorde, pour le sacrifice, pour le plan de Dieu, pour le sacrifice du Christ, pour le don du Saint-Esprit, et pour le fait que nous avons un avenir, que nous pouvons, en marchant avec Dieu, hériter le royaume de Dieu. Le fait d'être reconnaissant pour toutes ces choses, parmi tant d'autres, et le fait d'exprimer cette reconnaissance à l'égard de Dieu, de montrer notre gratitude. J'ai voulu vous lire un autre passage, cette fois-ci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, et on va lire à partir du verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 16, où on voit à quel point Paul est positif quand il écrit son état d'esprit. Verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Verset 17, « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et là, Paul précise, « Rendez grâce en toutes choses. » car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous voyons ici donc ce que Dieu veut que nous fassions. C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est une précision et ça ajoute du poids. Ça montre l'importance pour nous de rendre grâce à Dieu, d'exprimer notre gratitude à son égard. Et c'est bien marqué dans le verset 18, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu est notre berger. Il nous mène, il nous guide, il nous protège, il permet également des épreuves, mais nous sommes dans de bonnes mains, nous sommes dans les mains de Dieu et nous pouvons remercier Dieu. Et j'ajouterai, je m'y rapporte pas, j'ajouterai aussi Romains chapitre 8 et le verset 28. Uniquement est-ce que Paul prêchait le fait de rendre grâce à Dieu, mais il le mettait en pratique aussi dans des situations spécifiques. Par exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Vous voyez, le tel esprit de Paul, continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Les frères étaient réceptifs, et Paul rendait grâce à Dieu. Nous, de notre côté, nous connaissons des frères dans l'Église qui sont de bons exemples. Nous avons des amis et d'autres personnes qui nous font du bien et nous pouvons remercier Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 3, nous lisons ceci. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. Paul, c'était sa façon d'être, c'était sa façon de vivre, et il mettait en pratique, donc, le fait de rendre grâce à Dieu. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Il donnait donc la raison pour laquelle il rendait grâce. Nous, de notre côté, nous pouvons rendre grâce à Dieu si nous avons le privilège de pouvoir assister à des assemblées de l'Église. Si nous démontrons la gratitude, nous faisons preuve d'un état d'esprit positif. Positif vis-à-vis de notre Père. Quand nous cultivons un esprit de gratitude et que nous l'exprimons régulièrement, que ça fait partie de notre façon d'être, quand les difficultés arrivent, ce sera plus facile de ne pas oublier ce que nous avons. Il y a une clé qui est importante, c'est le fait d'être content avec ce que nous avons. Le fait d'être content avec ce que nous avons ne veut pas dire de ne pas développer notre potentiel, de ne pas chercher à avancer dans la vie, mais il y a mise en garde dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une grande source de gain au point de vue spirituel. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela ne suffira. L'essentiel, le nécessaire. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. De ne pas vouloir plus. Si Dieu donne, c'est autre chose. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le contraire d'un esprit tranquille, quelqu'un par exemple qui est reconnaissant pour ce qu'il a et qui n'a pas les yeux sur ce qu'il n'a pas. Si, par la suite, ce que nous avons sur un plan matériel augmente, il ne faut pas que cela nous nuit au point de vue spirituel. Quand Israël était dans le désert, Dieu a donné une mise en garde. Deutéronome chapitre 8 et le verset 3. Deutéronome chapitre 8 et le verset 3. Nous lisons ceci. Dieu parle ici de ce qui s'est passé avec son peuple. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Verset 7. C'était l'avenir, leur avenir, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. C'était des bénédictions que Dieu allait donner. Le verset 10, je lis dans le rabbinat. Tu jouiras de ses biens, tu t'en rassasiras. Rends grâce alors à l'Éternel ton Dieu. Rends grâce alors à l'Éternel ton Dieu du bon pays qu'il t'aura donné. Le fait d'être toujours reconnaissant à Dieu, même si les biens augmentent. Et si les biens augmentent ou si les biens n'augmentent pas, de garder un esprit de gratitude. Mise en garde dans le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est Dieu qui nous donne la force pour avancer dans la vie. Tout vient de Dieu. Il est si nécessaire de garder un esprit de reconnaissance. Il est si nécessaire que l'esprit de gratitude reste et reste constamment présent dans notre vie, quelles que soient nos circonstances, quelle que soit notre situation. Jusque maintenant, nous avons parlé de la gratitude à l'égard de Dieu. Mais Dieu veut que nous exprimions aussi notre gratitude envers les autres, envers notre prochain. Romains chapitre 16 et le verset 3. Romains 16, verset 3. C'est Paul qui écrit, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rende grâce, donc vis-à-vis d'autres frères dans l'Église, ce n'est pas moi seul qui leur rende grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes ces églises qui étaient reconnaissantes et qui ont exprimé leur reconnaissance. Nous avons vu au début du sermon le rapport qui existe dans Philippiens, le rapport qui existe entre l'action de grâce et la paix de Dieu. Et sur le plan humain, il y a aussi un certain lien. Quand nous exprimons notre gratitude envers quelqu'un, nous favorisons la paix. Ça rend les relations humaines beaucoup plus agréables. La gratitude, par exemple, de ce que les autres font pour nous. Un signe de reconnaissance, des remerciements, et peut-être faire preuve d'hospitalité en guise de remerciement. Il y a beaucoup de domaines où nous pouvons exprimer notre gratitude à l'égard de notre prochain. Sa gentillesse, sa patience, son travail, la peine qu'il se donne, de le remercier s'ils nous font du bien, de le remercier s'ils ont prié pour nous. Nous connaissons probablement l'exemple dans Luc chapitre 17 et le verset 15 avec les 10 lépreux qui étaient guéris. Luc chapitre 17 et le verset 15. Ils sont donc guéris, les 10 lépreux. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain et il savait exprimer la gratitude. À la conférence, au mois de mai, il y avait un ministre. Il n'était pas du tout en bonne forme physique. Il était tombé dans les escaliers. Il était pas bien du tout. Mais il y avait aussi quelqu'un qui savait exprimer l'amour, la sollicitude à son égard, et ça lui a fait beaucoup de bien. Il a apprécié. Et avant de rentrer chez lui, il a remercié cette personne qui lui a fait du bien, parce qu'il a beaucoup apprécié. Exprimer la gratitude construit des relations. Et par la même occasion, ça nous fait du bien aussi. Avant de terminer, j'ai voulu vous parler de deux articles que j'ai vus sur l'Internet qui parlent de la gratitude. Le premier article, c'était de Point, ça date de 2016. L'article était intitulé « Dire merci nous fait du bien ». Je cite « Exprimer sa gratitude, savoir témoigner de sa reconnaissance envers une attention, une bonne surprise ou un don, fait du bien à notre mental et, plus surprenant, à notre organisme. Nous avons intérêt à dire merci. Les preuves de ces bienfaits sont multiples, comme le démontre Rebecca Shankland, chercheuse au laboratoire de psychologie de l'Université Grenoble-Alpes, auteur de « Les pouvoirs de la gratitude », édition Odile Jacob. Des études ont montré que les émotions positives réduisent le taux d'hormones de stress de 23% et améliorent la récupération cardiaque après un effort. D'autres recherches ont mis en évidence un effet sur le fonctionnement du système immunitaire. Diminution des troubles de sommeil, réduction de l'anxiété et même une moindre apparition de rhume. Il y a un autre article, édité par Notre Temps, c'est un article récent, intitulé « Dire merci, c'est bon pour la santé ». Je ne vais pas vous lire tout l'article, parce que c'est trop long, mais j'ai voulu vous lire quelques extraits. Ce petit mot tout simple du quotidien peut nous faire plus de bien que nous ne le pensons. Des chercheurs l'ont évalué et l'éprouvent. Ça, c'est le sous-titre. Nous remercions presque sans y penser pour une porte tenue, un verre rempli à table. La démarche est plus appuyée pour un gros service rendu ou une gentillesse d'importance. C'est évident pour nous, tant la politesse et le « dit merci » étaient un pilier incontournable de notre éducation. Notre temps est écrit pour des personnes âgées. Mais au-delà du caractère systématique, ce témoignage de gratitude est riche en bénéfices. Les chercheurs en psychologie ont évalué par de nombreuses études ces effets dans les relations sociales, mais aussi sur notre santé morale et même physique. À condition de dépasser l'automatisme, justement, pour redonner tout son sens à ce mot magique, entre guillemets. Autre sous-titre, dire merci, c'est bon pour le moral. L'enrichissement de nos relations sociales, notamment par nos témoignages de reconnaissance, on l'exprime, ne peut qu'aider moralement. Éprouver de la gratitude réduit le sentiment de solitude, car cela nous permet de nous sentir reliés aux autres, même si les moments passés avec eux ne sont pas si nombreux, précise Rebecca Shankland, c'est la même personne que nous avons citée tout à l'heure. Voilà qui prouve l'enjeu humain fondamental de la politesse au-delà des codes sociaux, ajoute Frédéric Ruvillois, qui considère plus le savoir-vivre comme un savoir-être, nous poussons à voir l'autre réellement. Et cela nous fait profondément du bien. Il n'en fallait pas davantage pour souligner, grâce à plusieurs études, l'effet protecteur de la gratitude contre la dépression. Plus nous savons dire merci aux autres, à la vie qui nous gâte, moins nous nous sentons déprimés, confirme Rebecca Shankland, recherche à l'appui. Et là, il y a un exemple assez intéressant qui est donné. Jean, 59 ans, en a fait récemment l'expérience. J'ai dû écrire un texte pour les 90 ans de mon père. Cela m'a pesé car nos relations sont tendues depuis toujours. Mais j'ai finalement trouvé plein de souvenirs positifs et j'ai compris tout ce qu'il m'avait apporté. Je l'en ai donc remercié. En lisant ce texte lors de la fête, j'ai éprouvé une libération. Mon père était très ému et il m'a remercié à son tour. Quelques mois après, le bénéfice est toujours là, comme si un fond de tristesse se dissipait peu à peu après tant d'années. Autre sous-titre, dire merci, c'est bon pour la santé. Encore plus fort, notre corps en profiterait directement. Les observations par imagerie cérébrale de la fréquence cardiaque, de la tension et de la sudation ont montré une réduction des manifestations liées au stress et du taux de cortisol, notamment moins 23%, sous l'effet d'émotions positives comme celles que génère le sentiment de reconnaissance, rapporte Rebecca Shankland. Le rythme cardiaque ralentit, la tension baisse, c'est donc bon pour le cœur, pour l'organisme, moins exposé aux phénomènes d'oxydation, mais aussi pour les fonctions cérébrales. La gratitude décuple ainsi étonnamment la créativité et l'agilité intellectuelle. Ce genre d'émotion positive joue même sur l'immunité et protégerait de la rhinite. Une valeur sûre en cette saison. Sans aller jusqu'à imaginer prescrire des merci sur ordonnance, cultiver cette démarche nous met dans un dynamisme bénéfique pour la santé du corps et de l'esprit. Dire merci, ça se cultive. Enfin, la lettre de gratitude ou le fait d'écrire à une personne pour la remercier de quelque chose d'important a aussi fait ses preuves, un peu comme pour Jean, à travers le texte dédié à son père. Puis, pour terminer, dire merci, ça s'apprend. Nous n'avons donc jamais fini d'apprendre à dire merci, même si cela commence très tôt avec nos enfants et petits-enfants. Comment leur faire comprendre à quel point c'est important? En donnant l'exemple, en se disant souvent merci entre adultes aux enfants. Conseille avant tout la psychologue Rebecca Shankland. Que nous ayons eu une bonne ou une mauvaise journée, il y a toujours des choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. Et même les petites choses ont de l'importance aux yeux de Dieu. La gratitude n'est pas une option. La gratitude doit faire partie de notre culte de tous les jours à Dieu. N'oublions jamais d'être reconnaissants envers Dieu et envers notre prochain.